Et là, non,
Allez,
c'est
mission,
là,
on y va.
c'est
Donc,
là.
la semaine dernière, on a développé, donc on est sur le troisième et dernier cours, Bezrat Hashem, sur la Mishnah Midot. D'accord? Donc, on a développé la semaine dernière la Ezrat Nashim. Donc, on a ici la maquette devant nous. La Ezrat Nashim, on l'a développée avec les marches et les différentes pièces qu'il y avait. Aujourd'hui, on va développer ce qu'on appelle la Hazara. La Hazara, c'est toute cette partie. Donc, la Hazara, c'est toute cette partie. Donc, on peut l'avoir ici. Approchez-vous, peut-être, ce sera plus simple. D'accord? Dans la Hazara, première chose qu'on remarque, c'est on remarque, donc il y a des marches, dès qu'on passe la porte pour entrer dans la Hazara, on voit, d'accord, des marches pour descendre. Alors, il y avait ou 4 ou 6 marches, ça dépend des avis. Alors dans ces marches se tenaient des Lévi'im. D'accord. Dans ces marches.
Les marches se tenaient des Lévi'im,
non, non, alors justement, pendant la Simchat Bet HaShoeva, ils étaient là les Lévi'im, on expliquait la semaine dernière. Et là on parle pour accompagner les sacrifices. Par exemple, tout à l'heure, la mise à du Raman d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il fallait sonner de la trompette, d'accord, pour les sacrifices saisonniers. Bon, où on se mettait pour sonner la trompette, on se mettait ici. Et les trompettes étaient stockées, on l'a expliqué ça la semaine dernière, étaient stockées ici, dans la petite pièce qu'il y avait ici.
C'est la salle de musique.
D'accord ? La salle de la musique, voilà. Bon. À part ça, quand on voit tout de suite dans notre maquette, on voit qu'après les marches, on a comme une sorte d'espace qui est surélevé. Vous voyez ? Après les marches, on a un espace qui est surélevé. Approchez-vous, ce sera peut-être plus simple.
Où ?
Là. Là, vous voyez, c'est surélevé ça.
Ouais.
Tout ça,
oui.
Ça reste surélevé.
Ouais.
C'est comme une grande marche.
Une terrasse.
D'accord ?
Une terrasse.
À quoi ça servait ? Ça, c'était pour. Ça, c'est ce qu'on appelle la Ezrat Israël. Très, très petite. D'accord ? C'est si un juif, un Israël qui n'est pas Cohen, voulait assister à son sacrifice, il avait le droit de se tenir que jusqu'ici.
Jusque-là.
Jusque-là. Voilà, il n'a pas le droit de dépasser ça.
Et s'il était politique, c'est.
Très grave. Il pouvait être mis à mort s'il avait fait exprès, il pouvait être mis à mort pour ça. Donc on ne le faisait pas. Il était bloqué, il y avait des barrières et tout. D'accord ? Donc c'était ici. Ensuite. Quand on avance, qu'est-ce qu'on a ? On a le Mizbeach. Ça c'est bien, d'accord ? C'est donc le Mizbeach. Alors le Mizbeach, la vérité, c'est que le Mizbeach ici, il n'est pas très bien. Il est pas très bien dessiné. Le vrai dessin du Mizbeach serait comme ici. D'accord ? Ici on voit bien. Donc on a le Mizbeach, on a l'autel. Vous voyez ici. Donc ici, il vous montre qu'un seul foyer, ce qui n'est pas
non,
tout
il y a
le cas.
Plusieurs foyers,
d'accord ?
Ouais.
Donc on sait très bien qu'on avait on avait au milieu, on stockait les cendres. D'accord ? Et il y avait plusieurs foyers. Il y avait un foyer qui était perpétuel. Il était perpétuel dans lequel toujours il y avait du feu dessus. Il y avait un autre foyer dans lequel on brûlait les sacrifices. Et un autre foyer, d'accord, dans lequel on brûlait tout ce qu'on voulait brûler le soir. D'accord? Bon. Donc, trois foyers qu'on avait, d'accord. Et vous remarquez ici qu'il n'y a pas ici dans la maquette, ils n'ont mis qu'une seule rampe. En vérité, il n'y a pas qu'une seule rampe. En vérité, il y avait quatre rampes. Vous voyez dans mon dessin ici? Bon, c'est peut-être un peu
pour
petit.
Pour remonter, parce qu'une rampe comme ça,
regardez bien pourquoi quatre rampes. D'abord, il y a la rampe principale. La rampe principale, c'est celle qui monte jusqu'en haut. Jusqu'en haut du Mizbeach. D'accord? Vous voyez ici, ils ont dessiné aussi quatre coins. Parce que dans les quatre coins, il y avait des fois, on devait mettre des libations sur le coin sud-est, etc. Chaque fois, il y avait des coins. Très bien. Alors, je pense qu'ici, il met un gros plan sur le Mizbeach. Super. Voilà. Ici, il met un gros plan sur le Mizbeach, vous voyez. Enfin, un gros plan, oui. Donc, on a ce qu'on appelle ici la rampe principale, c'est le Kevesh Agadol. C'est la grande rampe, c'est la rampe principale. Ça, c'est la rampe qu'on empruntait en général pour monter, pour brûler les sacrifices. Ensuite, on a à Kevesh Akatan. Vous voyez le numéro 4? Numéro 4, c'est à Kevesh Akatan, c'est la petite rampe. À quoi elle servait cette petite rampe? Vous voyez qu'elle n'arrive pas tout en haut. Elle arrive apparemment à quelque chose qui correspond à un premier étage. À quoi elle correspond ce premier étage? Ici, on pouvait marcher. Dans ce premier étage, vous pouvez marcher, et c'était quand on devait asperger du sang sur les coins, donc ici, ou ici, ou ici, ou ici, on montait par la petite rampe, par le Kevesh HaKatan, d'accord, et on marchait ce qu'il fallait autour, d'accord, on aspergeait, et on redescendait par l'autre côté. Vous suivez ?
Ouais.
Donc Kevesh HaKatan, Kevesh HaKatan.
Oui, ça fait ça, à peu près.
Alors ça, je vais vous dire, d'accord, la mesure, je vais pas vous rec... Alors, 2 secondes. Le Mizbeach. Venez.
20 mètres sur 20 mètres.
Non, beaucoup plus petit.
Il donne la mesure ici. Je vais y arriver. On a la mesure.
Dans
cette question, on a la mesure.
Plus grand.
Bon. Donc.
Pour qu'il y ait plusieurs foyers.
Le ring, je te parle. Le ring.
Donc, on fait une petite pause avant de parler du Mizbeach. Autre chose qu'on avait. D'accord. Donc, parce que je sais qu'après, il donne la mesure. Si vous voulez déjà la Hazara. La Hazara, on connaît déjà les mesures. Alors, la Hazara, elle faisait 187 amot sur 135 amot. Donc une amas c'est 50 cm environ, à peu près. Donc vous divisez par 2. 187 divisé par 2,
90,
ça fait 93. D'accord,
93, 50.
Et donc 93 mètres 50, donc c'est pas très grand. Hein. Et de le, quand on dit la largeur, on a dit que ça faisait 135 amotes. 135 amotes, vous divisez par 2, ça fait combien? 65,
c'est quoi là,
750.
C'est quoi?
Non, je parle de tout ça. Tout ce bâtiment là.
Ah, tout ce bâtiment là.
Tout ça, toute cette partie. Toute la deuxième partie. C'est pas très grand. Vous voyez que, d'ailleurs, quand on voit sur le mont du temple, on voit tout de suite que le Beth Amikdash était un petit bâtiment. Par rapport à tout le monde.
Aujourd'hui, lorsqu'on va au côté, on est où?
Ah, aujourd'hui, quand on est même pas sur le Beth Amikdash, on est sur le mur qui entourait le mont du temple.
Bon, ça fait 7000 mètres carrés, un hypermarché.
Donc on est où? On est là, à peu près?
On est là.
Écoute,
non, ouais, c'est quatre fois. Un stade de foot, c'est combien? C'est combien un stade de foot?
C'est 120, 160.
C'est un stade de foot,
c'est 5000
mètres carrés. D'accord. 60 bon. Sur 100, 60,
donc,
60 sur 100.
On a, à part ça, d'accord? Il est juste là. Enfin, là, peu importe, mais c'est ici. Côté de la Maraville, il est là. Il est toujours en face du Kodesh HaKodashim. Toujours, il est là.
Un petit peu décalé.
Alors bon, après bien sûr, après il y a des schémas, ça va dépendre si on un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est là. Regardez, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est ici. On a le schéma ici, et le côté de la Maraville.
Tu as raison, moi je fais du mur.
Ah, mais sûr qu'il allait jusqu'au bout normalement. Ah, c'est sûr ça. C'est tout petit le Kotel qu'on a aujourd'hui. Moi, je me rappelle la première impression que j'ai eue, la première fois que j'ai vu le Kotel, j'ai vu, je crois, je devais avoir 16 ans ou 17 ans. Quand j'étais parti à l'Yeshiva, j'étais un peu déçu, parce que moi, dans ma tête, dans l'imagination d'un enfant, je m'imaginais toujours le Kotel comme un truc énorme. Et j'arrive, je vois, je dis, mais c'est tout petit.
Moi, c'est le contraire, j'ai trouvé gigantesque.
C'est quoi cette échelle-là? Il y a une échelle ici. C'est en quoi?
C'est en amot. Ou en mètre.
Ah, ça, c'est en mètre.
Ça, c'est en amot, ça, c'est en mètre.
En mètre? Ouais, il fait à peine un peu plus de 100 mètres.
Bon,
un terrain de football, ça.
Voilà. Bon, mais c'est pour ce qu'on avait à l'époque, c'était grand. Donc, on voit à part ça ici, à côté du Misbéar, d'accord, en proximité du Misbéar, on voit le, alors encore une fois, l'emplacement du Kior ici, d'accord, il serait pas au top, mais bon, c'est le Kior. Je sais pas si vous arrivez à voir.
Kior, ça veut dire quoi?
Alors, attendez, je vais le mettre comme ça peut-être. Voilà.
C'est mieux là.
Donc on a ici le.
On a ici le Kior.
Donc vous voyez ici le Kior. Le Kior, c'est l'endroit dans lequel les Kohanim se lavaient les mains. D'accord. Dans le Kior, bon ça, je sais pas, on peut pas le montrer à cette échelle-là. Mais dans le Kior, il y avait 12 robinets. Et le Kior, en rond, exactement. Il était en or. Enfin, ça, c'est. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous voulez vous imaginer, c'est ici. Il était en or. Il y avait 12 robinets. Et il était alimenté constamment par une source qui avait en dessous qui coulait autour en dessous du Beth Amikdash. Il y avait un système pour qu'il soit alimenté constamment. Et donc de ça, les Kohanim.
C'est le bassin de Salomon qui.
Non, c'est pas ça, le bassin de Salomon, c'est encore autre chose.
Qui apportait l'eau.
Autre chose. Ça c'est la piscine de Salomon, c'est encore autre chose. Là, on parle du second Beth Amikdash. Dans le second Beth Amikdash, il n'y avait pas ça. Donc ça c'est le Kior. Ensuite, à côté du Kior, d'accord, on avait deux tables.
D'accord. C'est second Beth Amikdash.
Ici ils en ont mis plus. Ici ils en ont mis quatre. Moi je suis ici l'avis de Maïmonide qui dit que c'était pas de, donc c'était la vérité c'est qu'ici les monte pas. Et plusieurs avis hein, comment c'était. Mais selon l'avis de Maïmonide, à côté du Kior, il y avait deux tables. D'accord? Deux tables. Une table en marbre et une table en argent. Alors, à quoi servait la table en argent? La table en argent servait pour tous les ustensiles qu'on risquait d'avoir besoin, qui étaient en or ou en argent, pour le service. Par exemple, pour mettre les kétorates à l'intérieur, tous les ustensiles en or ou en argent qu'on avait besoin, où ils étaient entreposés. Quand ils étaient entreposés sur cette table-là, une table qui était en or et en argent. Peut-être avant d'avancer, je devrais vous dire que vous remarquez dans la maquette, on voit ici que le toit ici de la Hazara est légèrement en retrait. On a l'impression comme si on pouvait se protéger. En vérité, c'était fait exprès puisque le Beth Amikdash, puisque la Hazara ici n'est pas couverte à part ce bâtiment-là. Donc quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Les Kohanim allaient ici. Ils allaient se réfugier. D'accord, non, c'est arrivé. Bien sûr, c'est arrivé qu'il pleuvait.
On a tellement de détails, on ne sait pas s'il y avait deux ou quatre tables. On nous donne tellement
non,
de détails.
Non, c'est des maroquettes, hein. Ouais, je sais. Il y a des choses qui nous ont été dites clairement, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Des choses qu'on ne sait pas. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de témoignages comme ça qui se perdent.
Les colonnes corinthiennes.
Donc, on avait une table qui était.
Bien beaucoup plus tard.
Une table qui était en. On a dit une table qui était en argent et une autre table qui est en marbre. À quoi servait cette table en marbre? Cette table en marbre, c'était la table sur laquelle arrivaient tous les morceaux de la viande sacrifice. D'accord? Pour l'hélicoptère personnel de Mashiach.
Il va atterrir là.
Il atterrit ici.
Ah, c'est un héliport.
C'est en direct au Kodesh HaKodashim.
T'as compris le coup comment il fait?
Ça se passe par le peuple et tout, direct.
Eh oui.
le véhicule.
Il fait pas la queue. Donc, la table, sur la table en marbre, que je vous ai montré dans mon dessin ici, sur la table en marbre qui est ici, c'est un peu difficile de montrer là. Hein. Okay, une table, on voit une table en marbre, c'est celle-là, la table blanche, et une table en argent. Sur la table en marbre, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tous les morceaux de la viande des sacrifices qui arrivaient.
Sacrifice, c'est quoi? C'est les croques, monsieur?
Avant de les amener. Avant de les amener sur le misbéar, parce qu'il y avait un Kohen qui était préposé pour les amener sur le misbéar, des fois on avait une forte affluence, alors où on posait tous ces morceaux, c'était sur une grande table qu'il y avait en marbre. Le marbre, c'est ce qu'il y a de mieux pour poser tout ce qui est viande, etc. Parce que
ça se nettoie
très facilement.
Très facilement. De l'eau et c'est parti.
Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, alors ça pareil, on ne peut pas le montrer dans la maquette, mais je peux vous montrer dans le dessin. Dans mon dessin ici du misbéar, vous remarquez, d'accord, regardez bien, dans le premier étage du misbéar, je montre ici, dans le premier étage du misbéar, vous remarquez, je ne sais pas si vous remarquez au point numéro 5, un fil rouge.
Voilà, c'est de là que ça vient.
Vous voyez le fil rouge?
C'est pour réparer les choses.
Fil rouge, fil rouge, fil rouge ici.
Ouais.
D'accord. À quoi il servait? On appelait le route à sucre. À quoi il servait ce fil rouge? Pas pour porter bonheur. D'accord. Ce fil rouge était pour différencier entre différentes libations ou différentes zricotes, donc ça veut dire différents. Chaque fois on devait prendre du sang, on devait le verser sur les parois du misbéar. Alors il y avait des fois dans lesquelles on devait le verser au-dessus du fil rouge, des fois on devait le verser en dessous du fil rouge. C'est la Torah qui dit. D'accord? Des fois la Torah elle dit en haut, des fois la Torah elle dit en bas. C'est quoi en haut, c'est quoi en bas? C'est au-dessus du fil rouge ou en bas du fil rouge? Ou en dessous du fil rouge.
On a les raisons.
D'accord? Non. C'est des raisons de Pikabala, mais la Torah ne donne pas les raisons. Dans le Chumash, non, Chumash va écrire, vous verrez Chumash va écrire. C'est vrai, des fois c'est écrit on met en haut du misbéar, des fois c'est écrit en bas du misbéar. C'est là, c'est le fil rouge. Comment différencier en haut en bas? C'est le fil rouge. Alors, maintenant, on a montré sur le misbéar, on a trois foyers, d'accord? Donc on a le foyer qui est ici, si vous marquez en petit, Esh Mehashamayim, c'est le feu qui venait du ciel. Bon, ça c'est un feu qui vient du ciel, mais qu'on devait quand même alimenter nous-mêmes, mais il venait de chez Akadosh Baruch Hu. On a ce qu'on appelle ici Amaracha Agedola. Maaracha Agedola, c'est quoi? Maaracha Agedola, ça veut dire le grand foyer. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce grand foyer? Dans ce grand foyer, on brûlait la viande et les graisses des sacrifices.
Les pauvres, d'accord? Toute la viande.
Toute la viande, donc c'est là-bas qu'on brûlait principalement.
Qui devait être consumé.
Le petit foyer qu'il y avait ici, on l'appelle le foyer du Ketoret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que on devait prendre des braises pour brûler les Ketoret, parce que les Ketoret c'est de l'instant, il faut des braises pour les brûler. D'où on les prenait ces braises-là? D'ici. Il y avait un foyer dédié pour les Ketoret. Donc vous voyez ici, ils vous ont mis des petits messieurs ici, c'est pour nous montrer l'échelle. Le misbéar est assez grand quand même. D'accord?
Il faut au moins 15 mètres sur 15 mètres.
Le Beit HaMikdash, donc il est assez grand. Pour l'instant, j'ai pas encore vu les mesures. Mais je me rappelle qu'il donne les mesures. Bon. Alors, ensuite, d'accord, ça on a expliqué. Ok, voilà. Donc, ensuite, Arba Matanot, Arba Kranot, Amisbeer, voilà, c'est ça. Alors, on peut pas le voir dans le dessin ici, mais dans le côté, ici, derrière la pente, ici, d'accord, en bas, donc ça veut dire dans mon dessin c'est à ce niveau-là, tout en bas, il y avait un trou. D'accord? Écoutez bien, il y avait un trou. Si ça avait été ici, par exemple, ça aurait été ici à ce niveau-là. Il y avait un trou. À quoi il servait ce trou? Ce trou, c'était un trou dans lequel on pouvait verser tous les
stands,
etc., tous les déchets. Ça atterrissait directement dans une source qu'il y avait en bas. Maintenant, c'est pas un seul trou qu'il y avait, il y avait deux trous en vérité.
C'est ça, vérifier.
Écoutez bien. Deux trous qu'il y avait. Et qu'est-ce qu'on faisait quand on voulait nettoyer le Beit HaMikdash? Ah, par exemple, après une forte affluence, c'était très sale, il y avait du sang partout, hein. Enfin bon, c'est que vous imaginez.
On sortait le goumi.
C'est bien ce qu'on faisait. On prenait un des deux trous qu'il y avait ici, il y avait deux trous ici, oui. On bouchait un des deux trous avec un morceau de bois. Puisqu'il y a une source en dessous, donc automatiquement, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? L'eau, elle monte. Et comme ça, l'eau, elle montait, ça prenait plusieurs heures, parce que c'est une source, ça coule pas très rapidement. Mais, en quelques heures, le Beit HaMikdash était inondé d'eau. Et ensuite, une fois que le Beit HaMikdash était inondé d'eau, on enlevait ce morceau-là, et toute l'eau repartait, donc ça prenait plusieurs heures tout ça. C'est pour ça qu'il y avait des Kohanim qui bossaient toute la nuit, il y avait le service de nuit, et le lendemain matin, comme tout était en marbre, donc on revenait, tout était propre. Le marbre, ça se nettoie très facilement. D'accord ? S'il restait un peu des saletés, etc., il y avait des Kohanim qui étaient payés pour ça.
Il n'y avait pas une mouche là-dedans, tout à
l'heure. D'accord ? C'est miracle, ça. Bon. Ensuite, oui. Du côté nord du misbéar.
Attention, il y a du pain
hein,
pour que ça, que l'on
mettait là-bas. Non, c'est parce que j'ai du côté nord du misbéar. Du côté nord du misbéar, ça veut dire ici. Vous voyez, encore une fois, là, il me montre quatre tables, d'accord. Mais en vérité, ce qu'il y avait ici, il y avait ici, ici il le montre bien, selon Maïmonide, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait des anneaux et des tables. Alors ici, comme il me dit, ici il me dit qu'on avait 24 anneaux, d'accord. On avait 24 anneaux, à quoi ils servaient ces anneaux-là? Donc c'est des anneaux qui étaient ici. À quoi ils servaient ces anneaux? Ces anneaux servaient à accrocher les animaux. Parce qu'on avait des fois une forte affluence, il y avait beaucoup d'animaux, il fallait, pour faire la shrita d'un animal, il faut l'accrocher. Je sais pas si vous avez déjà cité une shrita, mais il faut attacher l'animal. Comment on l'attachait? On l'attachait par ses pieds, bon ça c'est peu importe la technique qu'ils avaient, mais on l'attachait par ces tabaouts là, par ces anneaux là qu'il y avait. Donc il y avait des anneaux qui étaient accrochés fortement par terre.
Ne serait-ce que pour renverser un animal aussi.
Ouais. Donc on avait aussi le Bet HaMidbachayim. Vous voyez ici, c'est là M. David. Tu sais les petits crochets comme tu as dans ton restaurant là en haut. Les boucheries avant, c'est ça?
Oui.
Vous voyez, on voit des crochets ici en haut, en hauteur, pour accrocher l'animal dessus, une fois qu'on a fait la shrita, pour enlever les différentes choses qu'il fallait enlever selon ce que la Torah a dit.
C'est ce qu'il disait, ils l'ont accroché par les pieds là.
Ouais, il l'accroche par les pieds.
C'est comme ça que tu peux la renverser.
Il le tirait, d'accord, pour le renverser, c'est comme ça. Ouais, tu faisais passer un fil par l'anneau, d'accord, voilà. Et il le tirait, comme ça l'animal tombait, et une fois que l'animal était tombé, il a pris un
choc. C'est que tu as par les pieds.
Maintenant, il y avait 24 anneaux comme ça. On l'attachait à sa tête, avec sa tête ou à ses pieds, ça dépend des techniques qu'on avait, avec un fil. On tirait le fil, et l'animal tombait, et une fois qu'il avait le choc, on lui faisait la shrita. C'est le meilleur moment, même pour l'animal, c'est le moment dans lequel il a le moins mal. Parce qu'il a déjà mal du coup, tu lui fais la shrita, il sent rien. Alors, ici...
Ils font rien. On ne sait pas.
Hein. Ici,
on l'a demandé après.
On lui a demandé
si... C'est écrit, la Gemara a dit qu'Akadosh Baruch Hu, d'accord, il y a un animal, j'oublie quel animal, je crois que c'est la vache, je sais pas quel animal, que normalement, quand il accouche, il souffre tellement qu'il devrait mourir de souffrance. Et Akadosh Baruch Hu, d'accord, c'est un miracle, si on peut dire, il envoie, à chaque fois qu'il doit accoucher, il envoie un insecte ou quelque chose qui le pique, d'accord, qui le pique ou qui l'embête. Comme ça, lui, il est occupé avec la petite piqûre. Et il se rend pas compte qu'il est en train d'accoucher et qu'il y a quelque chose qui aurait pu le faire plus mal. C'est comme, imaginez-vous, essayez de vous rappeler de ça. Un jour, si vous avez très mal, pincez-vous le dos. Vous allez oublier votre douleur.
Si j'essayais avec une pince.
Vous allez être occupé avec la petite douleur.
Deux fois après.
Après. D'accord. Donc on avait des anneaux, c'est ça comme je vous ai montré. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une partie des sacrifices, comme le sacrifice Ola, qui était amené intégralement sur le Mizbéach, pour être brûlé, mais il y avait d'autres sacrifices dans lesquels on n'amenait que certains morceaux de l'animal. Donc les autres morceaux, ils étaient donc dépecés, etc. Donc c'était Bet HaMidbachayim, c'était ici, l'abattoir, le vrai abattoir était ici.
Il y avait des morceaux qui allaient pour le Kohen et des morceaux qui étaient entièrement cramés.
L'abattoir était là, c'était les gens qui voulaient de la bonne viande, ils tournaient autour d'ici. C'est là-bas, c'est ici que ça se passait.
C'est exact.
Ensuite. Oui. D'accord. Pourquoi il y a plusieurs portes?
Hein?
Ah, bonne question, pourquoi plusieurs portes? Enfin, on a expliqué la semaine dernière que chacune des portes avait un nom. D'accord, elle correspondait. La majorité des portes, on n'utilisait pas. On n'utilisait que la porte d'ici.
Ouais.
D'accord.
On se demande là pourquoi, c'est que pour les Kohanim, cela?
Non, c'était des portes qui n'étaient même pas utilisées. C'était des portes qui courent. On aurait pu, c'était des portes de secours, t'aurais dit. On aurait pu, je vais te dire plus que ça. Il y a plein de portes, d'accord, qui ne donnaient même pas à l'intérieur du Beth Amikdash. Ils donnaient une pièce. Une pièce dans laquelle on stockait des choses, etc. D'accord.
Ouais. Ah oui, parce que c'est...
Dans laquelle on stockait du bois, dans laquelle on stockait toutes sortes de choses.
C'est la zone de livraison. Bah oui, comme ça on rentre pas dans le temple. On rentre pas, on livre dans des remises.
Ok. Donc on a dit, ça on l'a déjà dit, on a dit qu'il y avait comme une sorte de véranda, si on peut dire, d'accord, pour protéger les Kohanim.
Les animaux, il a peut-être raison, parce que les animaux, en l'occurrence,
on va traverser tout ici,
par là,
les marches et tout.
Les animaux, il y avait même des animaux qui étaient préparés ici. On les préparait, on les vérifiait ici pour s'assurer.
Comment ils montaient des marches?
Et comment ils montaient
des marches?
On monte, bien sûr. Montez, il y avait des Kohanim qui étaient là. Montez. Pourquoi? Ici, il n'y a pas des marches. Comment on monte? Bien sûr, montez. Je vais vous dire plus que ça. On a dit que cette pièce-là, comme on a dit la semaine dernière, elle servait. Il y avait des Kohanim qui étaient infirmes, donc ils ne pouvaient pas servir ici, qui étaient là en train de vérifier le sacrifice pour s'assurer que tout est ok, que l'animal n'a pas de défaut, etc.
Kohanim est passé par là, peut-être.
Oui, bon, il y avait peut-être des...
Surtout pour là-bas, la livraison du bois, la livraison des tissus, la livraison...
Non, c'est là. Tout le bois était là. On l'a expliqué la semaine dernière.
Bon, alors.
D'accord. Bon, de toute façon, chez les Juifs, on n'a jamais été bêtes. Ils ont des solutions pour les faire passer. avec un fil peut-être, il lui tirait comme ça, et hey, hop, monte.
Le peuple était...
Ouais, mais alors, excuse-moi, alors quoi, c'est faire cette porte.
Le peuple était...
Tu mets quoi là-dedans?
Non, ça dépend.
Une remise, après, pour refaire tout ça pour rentrer ici, avec ce...
Ouais, non,
c'est plus ça d'avoir une porte,
ça,
une
c'est... porte. La majorité de ces portes n'étaient pas utilisées.
C'est
pas utilisé. Elle servait pas.
C'est des portes.
C'est des portes.
Tu ouvres un mur derrière.
C'était un, on dit que c'est un cavote pour le Batamigdash d'avoir beaucoup de portes.
Porte
à l'époque, les beaux bâtiments, ils avaient beaucoup de portes. C'était comme ça à l'époque. Et ils ont même donné des noms à ces portes. Un, il s'appelait la porte de l'étincelle, l'autre il s'appelait la porte du feu, etc. Alpikavala, il doit avoir des raisons, c'est sûr. Mais dans le Pshat, il y a beaucoup de portes qui ne servaient à rien. Ça servait à rien. On pouvait rentrer, mais personne ne rentrait. Tout le monde rentrait par ici. Pourquoi tu veux rentrer par là alors que tu peux rentrer par ici? Il faut savoir qu'en temps normal, il y avait personne ici. Cet Azrat Israël. Les gens qui venaient peut-être pour prier un peu, mais c'était rempli que pendant les fêtes. Enfin, pendant les fêtes, là, il y avait beaucoup de monde.
Néoménie.
Mais imaginez-vous la cohue que ça devait être. Chacun vivait avec son animal, hein. Enfin, pendant Pessah, par exemple.
Ça devait être la cohue, là. Même dehors, ça devait être. Ça devait être dans
ils montaient le monde. Imaginez-vous qu'ils montent le mont du temple, comme ça, avec les animaux et hein, avec les bruits qu'il devait
mais
avoir.
Mais ça avance, tu.
Tu vas le gentil chavéable un petit peu,
c'est un peu ça.
Ouais. Un peu.
Il y avait des flics qui faisaient circulation, le feu rouge.
Alors. Donc comme je l'ai dit, ici on a comme c'est un peu comme une véranda, d'accord. Donc on a un toit ici. Ah, le toit il dépasse un petit peu pour protéger les Kohanim dans le cas où il pleuvait.
D'accord.
Et c'est aussi les Kohanim le matin, on l'a expliqué la semaine dernière, lundi dernier, que les Kohanim de service, le matin, dès que le jour se levait, ils devaient faire un tour du Beth Amikdash pour s'assurer que tout est ok, par Kavod. Donc ils tournaient ici. D'accord. Quand je dis ici, ça veut dire qu'ils tournaient donc en haut du Beth Amikdash. Toute la mur avec autour du bataminage, et il tournait également au niveau en dessous de la véranda. Donc il faisait le tour comme ça, le tour pour s'assurer que tout est ok. Il faisait tout le tour, et tout le tour ici aussi, pour s'assurer que tout était ok. Alors, ensuite, on a ici. Oui. Ici, j'arrive pas à vous la montrer. Voilà, l'Ishtat Aparva. Alors, c'est ici. Ici, on a le. Là, je vais retourner mon dessin.
Quel support, comment il a retourné le temps.
Il a retourné le temps. Alors, ici, donc voilà, donc là je reprends mon dessin. Donc ça c'est pareil, ça c'est des choses qu'on peut pas montrer dans une maquette, apparemment ils ont pas réussi à le faire. D'accord. Vous voyez, à ce niveau-là, on avait trois petites pièces. Regardez bien.
Ouais.
À ce niveau-là ici, donc au niveau de, à la gauche, de l'entrée, de la Hazara, de l'Ezrat Israël, on avait trois petites pièces qu'on voit ici.
Vous les voyez. Pas les trois portes qu'il y a là-bas.
Regardez, vous les voyez. Ici, vous les voyez. Il y a un dessin. Il y a les photos, comment c'était.
Vas-y.
Vous les voyez ici, d'accord. Et vous les voyez en gros plan ici. Alors, à quoi ils servaient ces trois petites pièces? On avait la pièce qui était la plus au fond, c'était ce qu'on appelle l'Ishkat Amelach. Donc, vous voyez, on voit un petit Kohen ici à côté pour s'imaginer encore une fois l'échelle. Lui, toujours, il met des...
Pourquoi c'est les dalles noires et blanches?
Alors lui, il suit l'avis de Maïmonide. Maïmonide dit que c'était des dalles noires et blanches. Et il dit comme ça. Il dit que les dalles noires et blanches. Et ici, on voit ici qu'il y avait un bleu ciel et un bleu foncé. Quand le soleil y tapait, ça faisait un effet de vague. Comme si il y avait des vagues qui étaient en train de bouger. C'est un effet comme ça qu'il y avait. Alors, je sais pas, on n'a jamais essayé. Le Rav qui a fait ce livre-là, il dit qu'il a déjà essayé avec le soleil, cet effet, ça donnait la même chose. Il a fait une maquette, hein, une maquette qu'on peut voir. Une très belle maquette. D'ailleurs, c'est la meilleure référence qu'il y a en Beth Amikdash chez lui aujourd'hui. Le Rav Dov Lavnouni, il doit avoir 80 ans aujourd'hui, c'est le projet de sa vie. Il a fait divers choses.
Le mini Israël là-bas,
c'est le projet de sa vie.
Mais c'est bien qu'il ait fait un projet.
Non, c'est pas mini Israël, non.
C'est bien fait, hein, le mini Israël là-bas à côté du.
Moi, j'ai jamais été, mais il paraît que je vais aller.
Non, c'est très très bien fait.
J'ai essayé d'y aller quelques fois.
Alors, donc je vous montre.
Super.
On a ici.
C'est le musée du livre, c'est.
L'Ishkat Amelach. D'accord. L'Ishkat Amelach, on a dit, c'est où on stockait le sel. On utilisait beaucoup le sel au Beth Amikdash. Depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu avait dit au sel que il avait promis. Il a dit, dès qu'on aura le Beth Amikdash, tu verras, on va beaucoup t'utiliser. À Kol Korbanra Takriv Melach, le verset nous dit, sur chaque sacrifice, on devait rajouter du sel. C'est pour ça que nous aussi, sur notre table, on amène toujours du sel. D'accord. Parce que notre table, c'est un misbéar. Donc on avait l'Ishkat Amelach. T'arrives à voir? Monsieur David, tu suis ou pas? Approche-toi un peu. D'accord. La section du sel. À côté de la section du sel, on a un petit mikvé. Regarde le mikvé qu'on a ici. C'est un mikvé VIP. Hein. C'est un mikvé pour le Kohen Gadol. D'accord. Mikvé VIP. Ici. Vous avez un mikvé. Vous voyez le mikvé? Ensuite, là.
Ouais. Il devait se tremper avant chaque sacrifice, avant chaque...
Non, le matin, surtout pour le Kohen Gadol, quoi.
Je crois que c'était plutôt quand même. Tu vois, là,
le Kohen Gadol, il faisait sacrifice ou il était plutôt...
Non, le Kohen Gadol, il observait.
Il observait.
Par contre, alors on dit comme ça.
Ah,
c'est grand
Non, il le faisait en vérité.
En vérité, le Kohen Gadol, dans les faits, nous dit Maïmonide, le Kohen Gadol, dans les faits, il faisait le sacrifice du Tamid, donc le sacrifice journalier qui correspond à notre fila de Shacharit et Mincha, c'est lui qui le faisait tous les jours. Mais il n'était pas obligé. Là, s'il était fatigué,
oui, délégué.
N'importe quel Kohen pouvait le faire. Mais dans les faits, c'est lui qui le faisait. On lui donnait le Kavod. C'est un Kavod. Comme le Chazan. Le Kavod, c'est lui le Kohen Gadol. Mais si un jour il était fatigué ou il ne sentait pas bien, etc., il pouvait donner à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème.
Il y en a eu combien de Kohen Gadol? On sait.
Si, on doit savoir, mais je ne connais pas combien, on sait, ouais.
Parce qu'il arrive en retard.
Quand? Ok. Alors, ça je vous ai expliqué.
Il était en retard pour
les sacrifices.
Il y en avait qui étaient en retard pour
les sacrifices.
Alors,
oui,
oui, mais ils habitaient où?
Ils rentraient chez eux, ils n'habitaient pas ici. Il n'y avait qu'une pièce qui était ici.
Donc ils pouvaient venir en retard des fois.
Ou... Je ne me rappelle plus si c'est ici ou ici. D'accord? Donc il est vers le milieu du Beth Amikdash dans lequel le Kohen Gadol pouvait se reposer, parce qu'il n'avait pas le droit de dormir. Il pouvait se reposer le jour de Kippour. Il voulait se reposer un petit peu. Donc c'était le VIP de chez VIP là. Mais les autres.
Le jour de Kippour, il était là.
Ouais, il était là, c'est là qu'il était. Après, il descendait pour le peuple.
Grand VIP.
D'accord. Il était ou là, je me rappelle plus. Enfin, il me montait ici, mais c'était ou là. Il avait une pièce. Il avait une pièce avec un.
Sous les ovations de la foule. Et quand il arrivait devant le rideau. Tout changé.
On était pieds nus ici.
On était pieds nus. Tout le monde était pieds nus. Et c'est pour ça que, comme ils étaient pieds nus, justement, c'est une bonne question. Comme ils étaient pieds nus, on a une lichkat amoket.
Donc il y avait un truc pour se laver les pieds parce que comme ils étaient pieds nus.
Voilà, vous voulez voir la pièce du Kohen Gadol, elle est là. La petite pièce du Kohen Gadol.
Ah, c'est petit, c'est un petit studio quoi.
Un petit studio qu'il avait.
Vous voyez,
canapé, table et un fauteuil quoi. Et on a des co-animes en haut qui font la garde.
Il n'y a pas de mini-bar pour
ils n'ont pas mis la télé. Et avec la télé.
Mais comment ils montaient là-haut? Je vois ni ascenseur.
Il n'y a pas de mini-bar.
Pas derrière. Il y avait des escaliers en colimaçon.
Il n'y a pas de mini-bar.
Quand? Alors, ici, c'est intéressant aussi. L'Ishkat parisien, regardez bien. Ici, ça c'est de l'autre côté. C'est ici, là. À ce niveau-là, ici. On avait le site Grand Sanhedrin. Vous voyez ici, on a ici donc un siège en forme de cercle, et après deux, c'est le Grand Sanhédrin.
À quel endroit?
C'est à l'époque d'Hérode, ça.
Le Grand Sanhédrin.
Bon, le troisième temple, ils vont faire d'autres plans, il va faire d'autres plans, peut-être Hachem, il va reconstruire le même.
Non, parce qu'on dit que c'est le deuxième Beth Amikdash, et le deuxième Beth Amikdash a été construit selon la prophétie de Ézéchiel.
Et le troisième?
Il nous parle du troisième Beth Amikdash. Donc il y a beaucoup de
priori, 6000 suites, donc il va être pas tellement modifié.
Ouais, donc si je reprends mon dessin, d'accord, vous voyez, donc ici j'ai le Misbéach, ici j'ai le Misbéach. Ici, on a parlé, il y avait le sel, il y avait le mikvé, etc. Et là, vous voyez, le Sanhédrin est ici. Donc, il est là.
Mais attends, il y avait 120 personnes là-dedans?
Il y avait 72 personnes. Et plus que ça, 72, il n'y a pas que 72 personnes, il y avait aussi des spectateurs qui venaient. Là, qui venaient des fois, ou les apprentis, etc.
Mais elle est grande comment, cette salle?
Oui, elle est grande. Regardez. Ça, ne regardez pas la maquette, regardez le dessin. Lui, il est fait très précis. D'ailleurs, vous savez, ce rave-là, quand il est venu voir le rabbi en 91, il est venu voir le rabbi, il est venu plusieurs fois le rabbi, mais en 91, il est venu avec toute la maquette, il l'a fait passer en avion. Et il est venu avec une grande maquette, une maquette qui fait aussi grande que cette table. D'accord? Une grande maquette. Ça veut dire que ce qui était en marbre, il l'a fait en marbre. Il l'a fait en miniature. Et il a vraiment tout fait à l'échelle précise, etc. Le rabbi a regardé le Beth Amikdash et il a un grand sourire, on voit dans la vidéo. Et le rabbi, à un moment, il lui montre le Misbéach. Il lui dit, je pense que la rampe du Misbéach, il y a un petit manque de précision sur l'échelle. Et bon, il lui dit, Rabbi, écoutez, c'est le projet de sa vie, le gars.
C'est juste
le Rabbi l'a dit vérifier. Il est rentré chez lui à la maison, il a pris tout de suite ses règles et ce truc-là. Il a vérifié qu'il y avait une différence d'échelle, je crois, au lieu de 1 sur 100, c'est 1 sur 90. Il y avait une différence. Et le Rabbi, en un coup d'œil, il a vu ça. Il était impressionné, ce qu'aujourd'hui, il raconte encore. D'ailleurs, il raconte dans l'introduction de son livre. Mais pour lui, en tout cas, il s'est dit,
puisque le Rabbi,
voilà, puisque le Rabbi l'a rien dit, c'est-à-dire que le reste est bon. D'accord. Donc le Sanhédrin était ici. Vous voyez, le Sanhédrin est là, on voit bien là. Le Sanhédrin est ici, on voit ici en demi-cercle. Donc il y avait beaucoup de monde qui rentrait, et c'était assez grand. Surtout quand on voit, si vous voulez vous imaginer l'échelle, il n'a pas mis un petit monsieur ici, voilà. On voit un petit monsieur ici. Hein. Non, c'était grand. Il y avait où... Voilà, je vous montre le dessin.
Un petit monsieur.
Vous voyez, ça ici, le Sanhédrin est là. D'accord. Sanhédrin.
Comment tu sais que c'est un petit monsieur? C'est un grand monsieur?
Ah oui, peut-être un grand monsieur. Non, mais c'est lui qui l'a dessiné un petit. Bon, ensuite, juste à côté du... Ouais. Mishkat, voilà. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le dessin ici. Après, donc juste avant, là ici, il m'a mis direct les escaliers. À moins que... Ouais. Oh, il a fait comme ça, lui, d'accord. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Juste avant les escaliers, on a deux portes. Ouais. D'accord ? Vous voyez les deux portes ? Je ne sais pas
ouais.
si vous arrivez à voir.
Ouais, voilà.
Allez, voilà. Non, toi, tu les vois, mais pas
ici, des passages.
Deux portes.
Ah, les deux petites portes.
Deux petites portes.
Sur les côtés.
Vous êtes confiant, il y a deux portes. Quoi.
D'accord. Deux portes. Tu vois, David, deux portes ?
C'est ouvert, quoi.
D'accord. Alors, selon Maïmonide, c'était pas deux portes. C'était deux pièces qui étaient en retrait. Comme
bien
on voit
sûr.
Dans le dessin ici.
Puisqu'il y a des passages à côté, à quoi elles auraient servi ?
Comme on voit dans le dessin ici. Voilà. Ça, c'est l'entrée, donc c'est ici. Deux portes. Donc, selon Maïmonide, ça serait pas deux portes. Mais ça serait deux passages qui sont. Ça serait deux pièces qui sont en retrait. Qu'est-ce qu'on faisait dans ces deux pièces ? Ça, tout le monde est d'accord. Il y avait une des pièces qui était Lishkat Pintra Samalbish. Pintra Samalbish, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bah, c'est quoi, il fallait les habiller. Donc qui c'est qui laisse ça laisser y'a
le dressing.
D'accord ? C'était ici. Une des deux pièces. C'était la pièce de... Puisque, attendez, la Miss Béach est là. Voilà, c'était celle-là. Celle d'ici. Donc la pièce de gauche. En venant d'ici. Lishkat Pintra Samalbish. La pièce de droite, c'est la pièce qu'on appelle Lishkat Oseh Chavitin. Vous savez que dans le Beth Amidash, on faisait beaucoup de Chavita. Chavita, c'est les... Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, quand vous rentrez dans un restaurant, vous demandez une chavita, ça veut dire
une omelette.
D'accord, donc on faisait des omelettes dans le Beth Amikdash. On faisait beaucoup de friture. Où on faisait toute cette friture ?
Avec la farine. Hein.
C'était ici. Là, dans cette pièce-là. Il y avait la pièce de la friture. Ouais, il y avait ça. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient en parallèle dans le Beth Amikdash. Il y en a qui ont faim, je vois. D'accord ? Ensuite.
Les beignets.
Les beignets, voilà. Les beignets, les beignets tunisiens.
Tu parles des oblations à la poêle.
Non, je mange rien.
Ah, c'est pour des
accueils.
Ah,
d'accord. Moi, j'ai rien. Pour
les tu parles de ça, ce sont des oblations.
C'est des pains frits. On mange pas
un petit beignet, Claude.
Ensuite. Oui. Alors, juste en dessous de la pièce, je vais finir dans quelques minutes, dans 2-3 minutes, là. Juste en dessous de la pièce du Kohen Gadol, vous voyez, on a en dessous ce qu'on appelle Lishkat Aftinas. Qu'est-ce qu'on avait dans cette Lishkat Aftinas ? D'accord ? Lishkat Aftinas, c'est là-bas qu'on préparait les encens pour les kétorettes. Donc, vous voyez, ils avaient un stock d'encens, ici, là. D'accord ? Et en bas, ici, on voit qu'il y a une sorte de marmite. Vous savez que les encens...
Un pilon.
D'accord ? Non, c'est une marmite.
On l'écrase.
C'est une marmite. Il y avait un foyer en dessous et on remuait.
D'accord.
D'accord ? On remuait. Et c'est là que, là, on voit le Kohen. Donc, le Kohen qui est ici en train de remuer, parce que l'encens, il fallait brûler pour faire de l'encens.
Pas normalement,
il faut
que
ça. Ah oui, beaucoup de choses qui
passaient. La potion magique.
Il y a beaucoup de choses qui passaient, hein.
C'est vrai qu'on disait que celui qui faisait une fois le, chaque Kohen, quand il faisait une fois le Ketoret, il était riche à vie. C'est là. C'est ça qu'on dit.
C'est ici, c'est là. C'est ouais. Le Kohen qui était préposé pour le...
Ah, mais il y avait des familles de Kohanim différentes qui préparaient ça, parce qu'il
bon.
Y avait des secrets.
Alors, là-bas. Maintenant on va parler... Voilà, maintenant je reprends mon dessin ici, comme ça. Oh, ma gueule.
On reprend le temple.
Ah, elle est pas
lourde,
elle est
pas lourde.
Pas lourde, c'est...
Non, je le prends peut-être de l'autre côté, parce que là vous verrez pas, c'est moi qui... Voilà. Ici,
ben.
D'accord.
Oui, bravo.
Alors, ici à ce niveau-là, d'accord, vous voyez ici, on a, alors bon, voilà, encore une fois, on a des, c'est pas dessiné partout de la même manière, mais on voit ici qu'il y a trois portes, d'accord, une porte, deux portes, trois portes. Mmh. Ici, c'est un dessiné un peu autrement, d'accord, vous voyez, une porte, deux portes, trois portes.
Ah, ils sont avancés, on...
Alors, à quoi ça correspond ? Donc ça, c'était des Lishkot. Je veux commencer par celle-là. Celle-là, qui, vous voyez, avait un dôme dessus. Ils ont dû copier de chez nous. Et on voit le dôme ici aussi. Un dôme qui est en or. Ici. Donc celle-là, en vérité, elle est juste en face de la menorah. La menorah est ici. Juste en face de la menorah. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lishka ? Cette lishka, donc cette section, s'appelait la section de Beth Amoked. D'accord ? C'est quoi Beth Amoked ? Alors Beth Amoked, ici, me montre, voilà. Ici, vous avez un dessin plus précis. Beth Amoked. Beth Amoked, c'est un foyer. C'est-à-dire que si un Kohen, puisque le Kohen, il marchait pieds nus, s'il avait froid... Il avait très froid. Des fois, il avait froid au pied. Qu'est-ce qu'il... Où il allait pour se réchauffer ? Il passait par une petite porte qu'il y avait ici, et il venait ici pour se réchauffer. Donc, vous voyez encore une porte qui n'était pas utilisée pour rentrer, mais qui est une porte dans laquelle on sortait par ici. Et ici il y avait toujours un foyer de feu qui était là pour pouvoir se réchauffer les pieds, parce qu'il marchait pieds nus. Ce qu'on appelait Beth Amoked. On a aussi, au-dessus, vous voyez encore une fois, là dans le dessin, c'est pas précis exactement. Donc on a ici Beth Amoked, c'est... Ici, il y avait un foyer. Le foyer était en haut, et toutes les pièces étaient chaudes. Intéressant parce qu'on chauffait par en haut. On chauffait par en haut et toute la pièce était très chaude. Une pièce, la pièce chaude.
C'est le soleil en tapant sur cette coupole qui renvoyait la chaleur.
Non, il y avait un foyer.
L'énergie renouvelable, tu veux dire ?
Ouais. Chaleur,
on dit que c'était une pièce qui était toujours très chaude. C'était le hammam.
La pompe à chaleur était où ?
Le hammam, il était là. Le hammam de Beth Amikdash, il était là. Donc on rentrait ici, il faisait très chaud. Ensuite, en haut, on voit Lishkat Lechem Apanim.
Terrasse.
D'accord. Il y a, donc dans la terrasse, il y a quatre sections. Une, deux, trois, quatre.
Hein?
D'accord. À quoi ils servaient ces quatre sections? Alors, on a une des sections qui servait à préparer le Lechem Apanim, donc le pain qu'on rentrait ici, une fois par semaine. Le pain de préposition. On a une autre section dans laquelle Gnizat Avanim. Chaque fois que la Torah nous dit qu'il y avait des pierres qu'on devait mettre à la Gniza. Par exemple, les pierres. Chaque fois qu'il y avait des pierres que dans la Torah, il y a des cas dans lesquels on se dit qu'il faut prendre des pierres, il faut les cacher, il faut les mettre à la Gniza. Où on les met? Ici. Ici, on avait Lishkat Atelaim. Ça veut dire c'est là qu'il y avait un couturier. C'est là qu'il y avait un couturier qui a arrangé les vêtements. Mais si je finis.
J'aime bien les vêtements.
D'accord. Lishkat Atelaim.
On aurait pu penser que c'était là, le... mais bon.
Non, là c'était l'endroit où ils se servaient des vêtements, c'est le vestiaire.
Ouais.
D'accord. Ici, Lishkat Atelaim, c'est s'il y a un Kohen qui se déchire son vêtement, qu'est-ce qu'on fait? On le jette à la poubelle?
Bonne question.
Alors on l'a amené ici à Lishkat Atelaim, qui était en vérité en dehors, d'accord, parce qu'il fallait sortir. Et dans cette Lishkat Atelaim, il y avait un Kohen qui était couturier, et son job c'était de vérifier est-ce qu'on pouvait faire quelque chose. Parce qu'on est un vêtement de Kohen qu'on pouvait récupérer, on récupérait. Et dès qu'il était plus récupérable, on le brûlait.
Le vêtement?
Ouais.
On faisait pas les mèches avec?
Non,
on
faisait pas. On brûlait. D'accord?
J'avais dit qu'on faisait les mèches avec les caleçons.
Plusieurs avis. Non, non, non. Et on a également Lishkat Amoked. D'accord? Donc Lishkat Amoked, c'est là où on stockait tout le bois, parce que je vous ai dit que c'est une pièce chaude, donc il fallait bien stocker ce bois. Où on stocke tout ce bois? On a le Lishkat Amoked. D'accord? Donc c'est assez grand. Et dans ce Lishkat Amoked, on mettait du bois. Maintenant, le vrai endroit de stockage du bois était ici. Là, on stockait beaucoup de bois. Mais on amenait tous les jours un peu de bois ici. Comme ça, dès qu'il fallait alimenter, on se servait de cette Lishkat Amoked. D'accord. Encore 2-3 minutes. Et je conclue.
Voilà. C'est ça la maquette qu'il a fait, celui qui a fait la maquette?
Ah, c'est une belle maquette. Voilà. Je conclue avec l'intérieur, le bâtiment. Ça, c'est plus intéressant. D'accord. Le bâtiment est composé de deux parties, ce bâtiment-là, donc le bâtiment principal. Le Kodesh HaKodashim et le Kodesh. Donc on va essayer de faire d'expliquer rapidement à quoi ça correspond. Vous voyez, donc ça c'est ici. Là ils vous ont montré le bâtiment, c'est comme si on casserait la façade. D'accord? Donc là on voit tout de suite ce qui se passe. Donc je vais avancer un peu plus loin. Ça c'est le pain de proposition. Ouais. Les peintres tout en or, hein, de l'or. On rigole pas chez nous. Alors, ici, on a ici donc le. Ça c'est ce bâtiment-là. Vous voyez que selon Maïmonide, il est carré. Pas comme ici. Selon Tiferet Israël, mais selon Maïmonide, c'est un bâtiment carré. D'accord ? Selon Maïmonide, vous remarquez aussi que les poteaux qu'il y a en or, c'est des poteaux en or. Hein. D'accord, poteaux en or
qui sont.
Des colonnes en or qui sont à l'entrée, ne montent pas jusqu'au toit, elles montent, d'accord, que jusqu'à à peu près le tiers du bâtiment. Ça c'est des marloquets tout ça, mais Maïmonide, c'est comme ça qu'il le voit le Beth Amikdash. Donc c'est des sources qu'il a. Alors,
on n'a pas quelqu'un qui vivait autour du Beth Amikdash qui a pu écrire.
On n'a pas. La meilleure source qu'on a, c'est comment il s'appelle,
Joseph.
Mais
il y a des historiens. Peut-être même pas.
Ils n'ont pas écrit ce genre de choses. Si, il a parlé du Beth Amikdash. Il parle du Beth Amikdash.
Oui, mais il en parle. Il parle pas. Il dit
qu'il est bon. Détails. Oui, voilà.
Voilà, il donne pas de détails. C'était un contemporain pourtant. Il n'y a pas une personne qui aurait pu écrire.
Dommage qu'on n'a pas eu les photos.
C'est le seul contemporain.
Non, pas
le seul. Donc entre le
quelqu'un qui
regardez bien.
Vous
voyez ici.
Je dis c'est le seul.
Entre le Kodesh, là ici, dans cette pièce-là, on voit le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. C'est intéressant, ils aimaient le bleu à l'époque, c'était un peu oriental.
Ouais, voilà. C'était peut-être du carrelage en seul.
Franchement, le bleu avec le rouge ici, c'est beau.
En tout cas, c'était comme ça. Alors, le... Non, oriental, ils aiment bien le bleu chez les Arabes.
Bien sûr,
donc, vous voyez ici, là on a deux dessins, l'un à côté de l'autre. D'accord, un avec un rideau, l'autre sans rideau. Donc le rideau en fait c'est celui qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, entre le Saint et le Saint des Saints. Donc on voit ici, donc on va prendre celui-là, c'est plus simple, et juste imaginez-vous qu'il y a un rideau qui séparait, d'accord, qui séparait pour cacher, voilà le rideau on le voit ici là, le rideau qui se ferme des deux côtés. Donc on a à l'avant, la première partie du Beth Amikdash, on a ce qu'on appelle le Kodesh. Le Kodesh, donc c'est la partie, le Kodesh, donc c'est la partie dans laquelle tout Kohen pouvait rentrer, et dans le Kodesh on a ici la Menorah, qui n'est pas ronde, hein, comme on voit, son... vous voyez ici par exemple, on a fait... les tiges de la menorah ne sont pas arrondies, mais elles sont droites.
C'est la grande,
d'accord,
c'est parce que c'est
la grande menorah. Devant la menorah, on a des marches, parce que pas tous les Kohen pouvaient monter jusqu'en haut. D'accord. Le Kohen devait allumer la bougie tous les soirs. Tous les soirs, on allumait la menorah. Et elle devait rester minimum jusqu'au matin. Elle devait rester allumée jusqu'au matin. Dans les faits, elle restait allumée pratiquement toute la journée. Mais normalement, elle devait rester allumée au moins toute la nuit. Le soir, juste avant que la nuit tombe, on allumait la menorah. Ensuite, un peu en avant, d'accord, donc on a la menorah ici, un peu en avant, on a le... Ça c'est les kétorettes, donc oui, c'est tout petit, d'accord. Les kétorettes, ce qu'on appelle le petit misbéach, le misbéach en or, tout en or, d'accord. Enfin non, c'est du bois recouvert d'or pour être précis, d'accord. Vous voyez ici, on voit ici les deux barres pour pouvoir, le porter, bien qu'on ne l'a jamais porté, parce qu'on était dans un bétamigdash.
C'est des barres, d'ailleurs. Hein.
Dans ce misbéach en or, on mettait les kétorettes, c'est là qu'on mettait les kétorettes, c'est là qu'on offrait aussi certains sacrifices. Certains sacrifices, on amenait certains morceaux de sacrifices, on les amenait ici. C'était très rare, la majorité des sacrifices étaient ici. Oui, donc c'était assez petit. Hein. Ici, on a donc les pains de proposition que je vous montrais tout à l'heure. Et enfin...
Proposition.
Quoi ?
Proposition.
Ouais. Bon. Et enfin, au fond, on a... Le Aaron, la star du...
Très bien, Steven Spielberg.
Donc le Aaron, on voit ici les chérubins au-dessus. D'accord, les chérubins qui bougeaient. Les chérubins qui bougeaient, qui étaient ou bien qu'ils étaient l'un vers l'autre. Donc là, ils ont montré l'un vers l'autre, ça veut dire que Dieu est content du peuple juif. Mais quand Dieu n'est pas content du peuple juif, malheureusement, c'était pas le cas. Ils tournaient le dos, ils faisaient la tête. Hein. Dans, à l'intérieur de cette boîte-là, qui est le Aaron, on avait les louchot, donc les tables de la loi. On avait les chivrés louchot. Ça veut dire les débris des premières tables de la loi. Et on avait aussi un Sefer Torah. Sefer Torah que Moïse a écrit. Tout ça, c'était ici. Le Kohen Gadol ne pouvait rentrer dans cette pièce que une fois par an. D'accord ? Il rentrait dans son vêtement. On n'a pas eu le temps de parler cette année des vêtements du Kohen Gadol. Bezrat Hashem, on n'aura pas le temps d'en parler. Amen. Donc, le Kohen Gadol, quand il rentrait, il avait toujours des clochettes dans ses vêtements, de manière à ce qu'on et on lui demandait de marcher constamment, comme ça on est sûr qu'il est toujours en vie. Dès qu'il arrêtait de marcher, dès qu'on n'entendait plus le bruit des clochettes, ça voulait dire qu'il était mort. Et on le tirait, puisqu'il y avait un fil qui était accroché à ses vêtements.
J'explique à son
erreur. On le tirait. Seconde. Ensuite, comment on faisait pour nettoyer ? Ah oui, il faut penser à ça. Comment on faisait pour nettoyer la première partie ? On peut envoyer un Kohen. Mais pour le nettoyer, le deuxième partie, le côté Shakodashim, le Saint des Saints, qui est là. D'accord ? Donc nous, quand on est le côté de la main arrivée, on est juste en face. Comment on faisait pour nettoyer ? Comment on faisait pour nettoyer ça ? On envoyait des Kohanim qui venaient, qui montaient par ici. Donc ici, il y avait une entrée ici, quand on passait par ici. Mission impossible. Ils tenaient sur des fils. D'accord ? Et ils avaient, d'accord, leur mot d'ordre, c'était de ne pas toucher ni les parois, ni le sol.
Incroyable.
Pourquoi ? Parce qu'alachiquement parlant, tant qu'on ne touche pas ni les parois, ni le sol, c'est comme si qu'on est pratiquement pas rentré.
Comment il avait quoi alors ?
Ben, il avait le sol. Mais eux, leurs pieds et leurs mains, tout ça, ne touchaient pas. Ils ne touchaient ni le sol, ils ne touchaient rien.
Donc ils rentraient
et ils nettoyaient comme ça. Ils étaient suspendus à des fils. Parce que c'est très très important. D'ailleurs, on dit que même Titus, Marchemo, d'accord, quand il est rentré, il est arrivé devant le Kodesh Kodeshim, il a dit on ne peut pas toucher à ce bâtiment. C'est son peuple, c'est ses généraux qui l'ont forcé. Et même dans Flavius Joseph, il raconte, comme j'ai raconté Shabbat, il raconte comment il était en train de crier, ne touchez pas, ne touchez pas, ne touchez pas, à tel point qu'il s'en est évanoui, tellement il en a souffert. Alors bon, Félix Joseph, on ne sait pas si on peut lui faire confiance sur tous les détails, parce qu'il devait faire un peu de pommade à Titus, d'accord, ouais. Mais a priori, dans la tradition juive, sur ça, on lui fait confiance. On fait confiance que Titus, il a compris quand il s'est approché qu'il avait affaire à quelque chose de très fort. Donc le Kodesh HaKodeshim, on sentait qu'il lui soit très fort. Et je conclue. Donc ici, enfin pour conclure, ici vous voyez, on a ici deux dessins, deux schémas. On a le schéma de Maïmonide et le schéma de Tiferet Israël. Vous voyez Tiferet Israël ?
Ouais.
En réalité, même celui-là, il n'est pas précis.
D'accord.
Tiferet Israël, il l'a fait en forme de T. Un vrai T, pas comme celui-là. Ça, c'est...
Ah, carrément.
D'accord ? C'est le schéma selon Tiferet Israël.
Ah, carrément,
oui, mais là,
carrément.
Là, c'est un, il est un peu trop large.
Et l'autre est carré.
L'autre est carrément carré, c'est Maïmonide. Et nous, on a suivi ici Maïmonide. D'accord ? Voilà. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, espérons que le Beth Amikdash sera reconstruit très prochainement.